semaine commence, il est 6h. Et on les commence avec les nouvelles radiophoniques grâce à Yves Terrani qui nous présente The Flash. Bonjour Yves.
Bonjour. Les Rosemounais, les habitants de Rougemont ont revêtu leur plus beau zepon ce week-end. Le zepon, vous savez, c'est ce costume montagnard fait de velours noir. Et c'était donc à l'occasion d'une grande fête, la Saint-Antoine, qui célèbre le retour du soleil sur le perron de l'hôtel de commune de Rougemont. Le village vient en effet de passer près de 2 mois à l'ombre du Rubly, la montagne qui lui fait face. À l'époque, la Saint-Antoine permettait à la commune de récolter les taxes auprès de la population. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une grande fête où le folklore et les traditions sont à l'honneur. Son organisation est confiée chaque année à l'Office du tourisme Pays d'en haut région. Et pour cette édition, c'est même la jeune apprentie qui s'en est chargée de A à Z. Romane de Sibenthal au micro de Quentin Frey.
Au début, je devais travailler dessus avec ma collègue, mais en congé maternité. Donc, j'ai dû organiser entièrement moi-même. Au début, c'était assez stressant. Je ne savais pas comment ça se passait, etc. Donc, j'ai repris les dossiers, j'ai réétudié. Je me réjouissais aussi beaucoup parce que ça reste mon village où je suis née. Donc, c'était quelque chose d'assez sympa à faire pour moi.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place pour l'organisation de cette fête?
Alors, je pense que c'était quand même l'organisation avec l'hôtel de commune, parce que la nouvelle gérante est aussi nouvelle sur la manifestation. Donc, réorganiser aussi avec elle, qu'elle comprenne aussi comment ça se passait au niveau des traditions, etc. Donc, je pense que ça, c'était quand même le plus dur à organiser de la manif.
Voilà, et on précisera que l'hôtel de commune, c'est le lieu où les habitants se réunissent pour déguster le fameux menu cochonail de la Saint-Antoine. Les Diablerets renforcent encore leur position sur la carte du ski alpin. La station des Alpes vaudoises annonce la récente création du DAC, le Diableret Alpine Centre. Pour les créateurs de cette association, les objectifs sont multiples. Le site est destiné à accueillir les ski clubs, mais aussi les athlètes nationaux et internationaux pour des entraînements et des compétitions. L'idée, c'est aussi de raviver la mémoire des Jeux Olympiques de la jeunesse, car c'est une évidence. L'organisation des épreuves de ski alpin au Diableret a donné un vrai coup de boost à la station. Simon Rouesch, président du Diableret Alpine Centre et responsable du site lors des JOJ 2020.
On a eu énormément de monde, on a été presque surpris du monde qui est venu, qui sont restés autour de la piste, qui ont profité du village aussi, des hôtels, des restaurants, des remontées mécaniques. Donc oui, pour les Diablerets, ça a été très bénéfique ces JOJ. Ouais. À mon avis, je pense que les JOJ ont fait quand même accélérer certaines choses, typiquement le télécabine qui a été fait assez rapidement. Tout ça grâce aux JOJ, également l'élargissement de la piste qui a été développé rapidement grâce à l'organisation, grâce au canton, grâce à la commune. Donc je pense que oui, ça a quand même accéléré les choses.
Des propos recueillis par Quentin Frey, les Diablerets. Le Diablerets Alpine Centre a d'ailleurs obtenu l'homologation de Swisski et entre février et mars, 9 courses FIS auront lieu dans la station vaudoise. À terme, le DAC aimerait accueillir la Coupe du Monde Junior en 1926. Président de Crédit Suisse, Antonio Horta Osorio a démissionné. Entre fin novembre et début décembre, l'intéressé a violé les règles de quarantaine mises en place par la Suisse pour lutter contre le coronavirus. Cité dans un communiqué diffusé cette nuit, Antonio Horta Osorio dit regretter que certains de ses actes aient entraîné des difficultés pour la banque et affecté sa capacité à la représenter en interne et en externe. Il a donc estimé que sa démission était dans l'intérêt du numéro 2 bancaire suisse. Antonio Horta Osorio est remplacé avec effet immédiat par Axel Lehmann, a indiqué la banque dans un communiqué. La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers la mer du Japon, a affirmé ce matin l'armée sud-coréenne. L'information a été confirmée par des gardes-côtes japonais. Il s'agit du 4e essai d'armement en janvier pour Pyongyang, doté de l'arme nucléaire. Vendredi, la Corée du Nord avait en effet déjà tiré depuis un train 2 missiles tactiques guidés. Elle a procédé à 2 autres essais les 5 et 11 janvier, essais qu'elle a annoncés comme des missiles hypersoniques. En réponse à cette série de tests, les États-Unis ont annoncé la semaine dernière de nouvelles sanctions que Pyongyang a qualifiées de provocations. Le candidat à la présidentielle française, Éric Zemmour, sera fixé aujourd'hui sur son sort. Le polémiste d'extrême droite avait été jugé en novembre pour provocation à la haine et risque une amende. Son avocat a informé qu'il ne sera pas présent au tribunal correctionnel de Paris. Éric Zemmour n'est pas novice en la matière puisqu'il a déjà été poursuivi à de nombreuses reprises pour injures raciales, provocation à la haine ou contestation de crimes contre l'humanité. Du sport encore, en tennis, matricule numéro 22 au classement WTA, la Suissesse Belinda Bencic a franchi avec succès le cap du premier tour de l'Open d'Australie cette nuit. Opposée à la Française Kristina Mladenovic, la Saint-Galloise s'est imposée 6-4, 6-3. Elle affrontera mercredi l'Américaine Amanda Anisimova. Et puis le feuilleton, Novak Djokovic, qui ne disputera donc pas l'Open d'Australie. Le Serbe a quitté hier le territoire australien à la veille du coup d'envoi du tournoi à Melbourne. Il a atterri cette nuit à Dubaï, a-t-on appris tout à l'heure. On rappelle que la Cour fédérale australienne a rejeté le recours du numéro 1 mondial dont le visa avait été annulé à deux reprises par les autorités. Atteint par le Covid-19 en décembre, le joker espérait profiter d'une dérogation pour entrer dans le pays sans être vacciné. Dans un communiqué, Novak Djokovic affirme qu'il respecte ce verdict, même s'il se dit extrêmement déçu. Son absence fait les affaires de l'Italien Salvatore Caruso, qui, en tant que lucky loser, prend sa place dans le tableau principal de l'Open d'Australie. Et puis en ski alpin, en réalisant au moins un podium par jour, l'équipe de Suisse masculine quitte Wengen avec le sentiment du devoir accompli. Après les spécialistes de vitesse de jeudi à samedi, les slalomeurs ont pris le relais hier et c'est le Valaisan Daniel Juhl qui s'est montré le plus brillant en prenant la deuxième place d'une drôle de course. La victoire est en effet revenue au Norvégien Lucas Braathen, 29e de la première manche. Un scénario improbable, convient Daniel Juhl.
Quand j'ai vu les écarts qu'il avait créés Lucas au départ, je me suis dit que ça pourrait remonter loin, en tout cas jusqu'au podium. Après, ben voilà, si Christoffersen passe la ligne d'arrivée, il la gagne peut-être pas, mais avec Dessy, on met Paris en bouteille. Et je crois que ça monte vraiment le slalom actuellement. C'est de la folie. Celui qui est 30e de la première manche peut gagner la course. Même aujourd'hui, les écarts ils étaient relativement gros. Et malgré tout, avec une énorme manche, il a pu revenir la gagner. Donc voilà, c'est sympa de skier dans une ambiance un peu comme ça, j'ai envie de dire, où on n'a pas le droit d'y aller à la retirette et il faut aller à fond de la première à la dernière porte.
Daniel Juhl au micro de notre envoyé spécial à Wengen, Hugo da Custodia.